Campagne de pub. Alors, les deux dernières fois que j'ai eu l'occasion de prêcher ici devant vous ce matin, j'ai abordé une série que je vais finir aujourd'hui. C'était sur les 10 commandements. Et il en manquait un. Est-ce que quelqu'un se souvient lequel j'avais laissé de côté ? Bingo. Honore ton père et ta mère. Ou plus exactement, honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Souvent, on pense qu'à la première partie, mais il y a une deuxième partie. Alors évidemment, cette circonstance aujourd'hui, en un dimanche de fête des mères, et Christiane a déjà bien développé le sujet, ce que j'ai envie de faire, avec simplement ce verset, c'est d'abord d'essayer de comprendre ce que ça voulait dire à ceux à qui ça a été adressé, et ensuite on va réfléchir à aux applications qui peuvent nous concerner, nous, aujourd'hui. Alors, ce qui me semble vraiment super important, quand on prend un verset, c'est de le mettre dans son contexte. Souvent, il est très tentant de collectionner des versets qui nous plaisent à droite à gauche, et de tirer des enseignements uniquement de ces versets. Mais le risque avec ça, c'est de tordre un peu le cou à la parole de Dieu, et lui faire dire ce qu'on a envie d'entendre. C'est un peu comme ces journalistes peu scrupuleux qui vont faire des montages, qui vont couper les interviews simplement pour faire dire à quelqu'un ce qu'ils ont envie qu'ils disent. Mais c'est pas très honnête. Et parfois, on fait la même chose avec la parole de Dieu et on s'en rend pas compte que c'est malhonnête. Dieu ne se révèle pas juste par des versets, même s'il nous touche, hein, il nous parle par des versets parfois, mais il se révèle avec un message global qui est cohérent à travers tout le message de la Bible. Et quand on pense que la Bible a été écrite par différents secrétaires, si je peux pas dire que c'est des auteurs, si on considère que c'est Dieu l'auteur, mais en tout cas, c'est sur une période de plus de 1300 ans, et il y a une cohérence d'ensemble. C'est vraiment Dieu qui est l'auteur de tout ça, il veut nous parler. Alors, notre commandement aujourd'hui, c'est, on peut dire, c'est le cinquième dans la liste des 10 commandements, ou on peut dire le décalogue. Et en fait, ces commandements, pour un petit rappel, ça consistait en le tout début de la loi qui était donnée au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, dans le désert, après avoir été délivré de 400 ans d'esclavage en Égypte. Et il fallait partir sur de nouvelles bases, donner un nouveau fondement à ce peuple. Et moi, j'aime bien faire la comparaison avec notre Constitution. C'est vraiment les textes de base. Donc, les 10 commandements, c'est le tout début de ce nouveau cadre de loi et règles pour ce peuple. Et le cadre qui était donné à ce peuple, c'était celui d'une alliance avec Dieu. Dieu s'était approché de son peuple, l'avait appelé, l'avait délivré et voulait instaurer une relation durable avec ce peuple, avec à la clé des promesses d'être un peuple qui se multiplie, qui devient nombreux, et des promesses aussi d'habiter un territoire où coule le lait et le miel. Alors, on arrive à notre verset. Honore ton père et ta mère. Pour être honnête, honorer n'est pas un terme que j'utilise dans ma vie de tous les jours. Et parfois, ça peut peut-être être un concept un peu flou pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire, honorer ? Alors, j'ai regardé dans Petit Robert, mon premier réflexe. Honorer quelqu'un, c'est le traiter avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'égard. C'est le tenir en haute estime. Autrement dit, c'est considérer que cette personne est importante. Alors, le texte d'origine était écrit en hébreu, et l'hébreu, c'est une langue qui est très imagée. Et en fait, le terme qui est derrière, c'est avoir du poids. Hein, dans certaines civilisations, quelqu'un qui est important, qui a beaucoup de poids, c'est quelqu'un de très important. Bon, j'ai mis un sumo. Mais c'est ça, c'est l'idée de quelqu'un qui pèse, qui compte. On va écouter ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce que ça implique d'honorer quelqu'un ? En particulier, il y a deux applications évidentes, c'est, surtout pour un enfant à l'égard de ses parents, c'est d'obéir à ce qu'il va dire, à ce que ses parents vont lui dire. Et l'autre implication, c'est de prendre soin d'eux, de porter assistance à ses parents, surtout quand ils sont faibles, peut-être plus âgés ou malades, prendre soin aussi de ses parents. Alors, honorer qui, au juste ? C'est qui, ses parents ? Il est intéressant de noter que ce texte parle de « honore ton père et ta mère ». Aujourd'hui, ça peut nous paraître évident de parler d'égalité homme-femme, Mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Les femmes et les hommes n'avaient pas du tout le même statut dans la société. Donc je pense que c'est très significatif de voir que Dieu demande d'honorer autant son père que sa mère. Les deux sont importants. Tous les deux ont même le même droit à être honorés. Et aussi, ensemble, en tant que père et mère, ils ont le droit d'être honorés. Ils sont une seule chair, n'oublions pas. Mais dans notre contexte, il n'y a pas simplement les parents naturels d'une personne qui compte. Les commandements, ils étaient donnés à tout le peuple d'Israël. Donc il y a bien une dimension collective à prendre en compte. Dieu s'adresse au peuple, demande d'honorer, c'est-à-dire le père et la mère, ou les parents du peuple, donc les anciens, les ancêtres, par qui la transmission se fait, simplement du fait d'être un peuple. En fait, on n'honore pas simplement nos parents pour la personne qu'ils sont, mais aussi pour ce qu'ils représentent. Et en fait, on ne se rend pas toujours compte, mais les parents sont aussi des représentants de Dieu auprès de leurs enfants. D'une part, ils sont impliqués dans le processus de donner la vie, évidemment. C'est le métier de Dieu de nous créer, n'est-ce pas ? Donc les parents sont les représentants de Dieu là-dedans, mais aussi des représentants au niveau de l'autorité de Dieu envers nous. Et donc, quelque part, c'est une manière d'apprendre à respecter Dieu que d'apprendre à respecter nos parents. Donc, honore ton père et ta mère. Derrière, il y a aussi honore Dieu. Bon alors, qui c'est qui est concerné par ce commandement ? Dans une première lecture, on pourrait croire que ça concerne les enfants. Honore tes parents, obéis à tes parents, ça fait partie du processus d'éducation. Mais très vite, on se rend compte que ce commandement est plus général que ça, et il concerne aussi les adultes. Ils ont, ou ils ont eu, mais en tout cas, chacun découle de parents. Et donc, il n'y a aucune restriction qui est donnée à ce commandement, honore ton père et ta mère. Même quand nos parents sont partis, on peut encore continuer à les honorer, honorer leur mémoire, ou simplement ne pas mépriser l'enseignement qu'ils ont pu nous donner. Mais au-delà de cela, comme je le disais juste à l'instant, dans la dimension collective du peuple d'Israël, honorer les parents, c'était honorer aussi le projet que Dieu avait donné à son peuple et tout l'héritage qui est derrière. Dieu avait une promesse en réserve pour son peuple. Et plus loin, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens et il cite ce commandement « Honore ton père et ta mère » et il souligne que c'est le premier commandement qui comporte une promesse afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel te donne. Telle était la promesse que Dieu faisait à son peuple. Alors quand on réfléchit à quel est le lien entre un commandement « Honore ton père et ta mère » et la promesse, on comprend vite qu'il y a un lien mécanique si on le prend par la négative. Si je n'honore pas mes parents, si je les méprise, si je rejette ce qu'ils sont, ce qu'ils ont à m'enseigner, je vais rejeter aussi, enfin je vais mettre en péril le peuple, je vais mettre en péril cette promesse, cet héritage. Si je quitte mes parents, si je quitte ma terre, pour prendre une image plus matérielle, plus simple, je perds l'héritage que j'aurais eu à cet endroit, à cette terre que mes parents m'ont relégué. Alors, pour illustrer cette image, je pense à des rails. C'est comme si la transmission de la promesse au peuple de Dieu correspond à différents rails qui sont les uns derrière les autres. S'il y a un moment, il y a deux rails qui se déboîtent, si il y a une cassure dans cette relation-là, le train va dérailler, comme sur cette photo-là. Donc, c'était important, c'était vital pour la continuité de la promesse de Dieu pour un peuple que, à chaque maillon, les enfants honorent leurs parents. Donc on comprend mieux maintenant pourquoi il y a cette promesse qui est associée à ce commandement. Alors les dernières fois où je vous ai parlé des 10 commandements, je vous avais dit qu'il y avait une clé de lecture qui me semblait importante, c'est de comprendre à travers ces textes de loi qu'est-ce qu'on peut apprendre sur Dieu. La première chose, ça paraît évident, c'est que c'est Dieu qui a instauré l'autorité de nos parents, ou qui a instauré notre autorité en tant que parents vis-à-vis de nos enfants. Ça donne une légitimité en béton, n'est-ce pas ? mais aussi, et ça c'est quelque chose qui était général dans tous les commandements de Dieu, ce qu'on peut voir c'est que derrière, Dieu veut bénir son peuple. Souvent quand on pense à la loi, on pense que c'est quelque chose qui est là pour nous contraindre, pour nous briser notre liberté, pour nous empêcher de faire ce qu'on veut. Mais le but de Dieu, c'est vraiment de nous bénir, de nous faire du bien, de nous donner un chemin où on ne tombe pas, on ne trébiche pas sur les rocailles ou dans les racines. Si Dieu a donné ce commandement, c'est parce qu'il sait qu'on est fragile, il sait qu'on peut vite tout gâcher, il sait qu'on peut vite mépriser les promesses qu'il a pour nous, et donc il nous donne ce commandement pour nous garder. Parce qu'il veut qu'on profite de ce cadeau qu'il nous a fait. Si on prend encore une comparaison, encore une image, admettons que vous offriez un cadeau précieux à votre enfant et qu'au bout d'une semaine, il a tellement maltraité le cadeau qu'il n'a plus aucune valeur, qu'il est bon à jeter à la poubelle. Vous voulez qu'il puisse profiter de ce cadeau le plus longtemps possible, donc vous allez lui donner les instructions qui vont avec pour bien en prendre soin. Peut-être même que vous allez donner l'étui qui est adapté pour le protéger. Ben, c'est un peu ça. Honore ton père et ta mère, c'est les instructions, le mode d'emploi pour ne pas casser le cadeau que Dieu veut faire à son peuple. Alors, maintenant j'aimerais insister sur le fait que c'est un commandement à prendre au sérieux. Il y a plusieurs exemples dans la Bible qui nous montrent que si on n'honore pas nos parents, ça peut être très lourd de conséquences. Le premier exemple, situé avant que ces commandements soient donnés, mais la logique est quand même là. Je pense à Cham, un des fils de Noé. Vous connaissez peut-être cette histoire où Noé avait planté une vigne, il a fait du vin, il a bu, il s'est enivré et il s'est mis à nu dans sa tente. Son fils Cham le découvre et qu'est-ce qu'il fait ? Plutôt que de recouvrir la nudité de son père pour le préserver de la honte, il va plutôt raconter ça à ses frères. Hey, « Regardez, papa, il est dans un état complètement ivre, tout nu. » Ça, c'était grave, c'était déshonorer son père. Et il l'a payé cher. Quand Noé a découvert cela, il a maudit son fils, et non seulement son fils, mais toute sa descendance à travers son fils Canaan. Et maudire, c'est pas juste des mots en l'air. Quand on pense que la descendance de Canaan, c'est les peuples qui ont habité dans le pays de Canaan, et qui ont dégénéré et qui ont dû être exterminés à l'époque de la conquête d'Israël par le peuple d'Israël, on se rend compte que cette malédiction, elle a porté des fruits de manière très concrète. Donc, c'était sérieux, c'était grave. Ensuite, on est juste après les 10 commandements, dans les premières lois qui sont données après, dans Exode 21, verset 17, on a un commandement qui est assez troublant, qui dit que quelqu'un qui maudit ses parents est passible de la peine de mort. Rien de moins. Parce que c'était considéré comme quelque chose de très grave. Et un peu plus loin dans la loi aussi, dans les Deutéronomes, on peut y lire que si un fils est rebelle et qu'on ne peut plus rien faire pour le corriger, qu'on ne peut plus rien faire pour le ramener dans le droit chemin, il doit être amené aux anciens de la ville et que l'ensemble des hommes de la ville doivent le lapider. C'est terrible. C'est horrible, mais c'est parce que c'était une faute grave, non seulement pour la famille, mais pour l'ensemble de la communauté, et qu'une peine aussi terrible serve d'exemple aussi pour dissuader d'autres de répercuter la même chose. Donc tout ça pour dire que c'est extrêmement grave de ne pas honorer nos parents. Alors là, on était dans le contexte d'origine. Maintenant, quelles applications pouvons-nous en tirer pour nous, aujourd'hui, chrétiens du XXIe siècle ? Tout d'abord, j'avais indiqué que cette loi a été donnée dans le cadre d'une alliance entre Dieu et son peuple. C'est ce que la Bible appelle, après coup, l'ancienne alliance. Pourquoi l'ancienne alliance ? Parce que maintenant, elle n'est plus en vigueur, que depuis la venue de Jésus-Christ sur cette terre, il y a une nouvelle alliance qui est bien meilleure. Aujourd'hui, il y a toujours un peuple de Dieu, mais ce n'est plus le peuple physique d'Israël. Le peuple de Dieu, maintenant, c'est l'ensemble des personnes de par le monde qui croient que Jésus est le Christ. Alors qu'est-ce que ça veut dire, croire que Jésus est le Christ ? C'est qu'il est le sauveur des hommes. Le sauveur. Sauvé de quoi ? Sauvé, délivré de nous-mêmes. Parce que notre manière de vivre nous conduit droit au mur, droit à la perdition. Parce qu'on est rebelle et on fait n'importe quoi, on attriste Dieu et on est voué à la mort. La mort physique, ça tout le monde le sait, mais la mort spirituelle aussi, qui est d'être séparé de Dieu. Et on ne peut rien faire pour lutter contre ça. Ce fléau, c'est ce que la Bible appelle péché, mais on ne peut rien faire pour lutter contre le péché. Seul Jésus-Christ peut nous délivrer, parce que lui est mort à notre place. Il a payé le prix, c'était notre peine de mort, c'est lui qui l'a payé à notre place. Et on peut bénéficier de sa résurrection et être réhabilité auprès de Dieu. On peut vivre à nouveau, être né de nouveau spirituellement, pour être réconcilié avec Dieu, réconcilié avec notre Créateur. C'est ça, être chrétien. C'est pas porter une étiquette, aller dans une église ou quoi que ce soit. Non, être chrétien, c'est croire tout cela. C'est croire qu'en Jésus-Christ, on peut être réconcilié avec Dieu. Donc tout ça pour dire quel était le peuple de Dieu aujourd'hui. Dans cette nouvelle alliance, donc on a vu le côté peuple, on peut faire l'analogie hein, avec le reste de ce qui était dans l'ancienne alliance. Il y a aussi des promesses. Les promesses pour le peuple de Dieu, ce n'est pas d'aller habiter sur une terre bien précise sur la terre, dans un pays bien précis sur la terre, mais nous avons des promesses de vivre éternellement auprès de Dieu. Alors, on parle de plein d'images, notamment dans l'Apocalypse, on parle de la Nouvelle Jérusalem, qui est une ville pleine d'or pur et de pierres précieuses, une image pour nous dire que c'est un endroit magnifique, en tout cas, des promesses de vivre éternellement auprès de Dieu. Voilà ce qui fait partie de la Nouvelle Alliance. Alors, le dernier aspect de la Nouvelle Alliance que je vais évoquer, finalement, c'est ce côté, la loi. Il y avait toujours une loi qui était associée à une alliance. Donc, les 10 commandements, c'était le début de la loi qui était dans le cadre de l'Ancienne Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance, je me suis posé la question, alors c'est quoi la loi ? Et je suis tombé sur ce verset, cette parole de Jésus dans l'évangile de Jean, qui dit ceci. « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Alors il dit ça à ses disciples, et puis il précise qu'est-ce que ça veut dire, « comme je vous ai aimé », parce qu'on ne se rend pas forcément compte. « Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » C'est comme ça que Jésus nous a aimés. Il a donné sa vie pour nous. C'est ça, la loi dans la Nouvelle Alliance. C'est ça, le commandement qui nous est donné, d'aimer notre prochain, de nous aimer les uns les autres, au point d'être prêt à donner notre vie. C'est fort. Alors, je pourrais m'arrêter là, mais j'imagine que certains d'entre nous resteront sur leur faim. Et le sujet, c'était pas comment on honore nos parents. Ça devient un peu général, là. Mais c'est bien de faire le lien entre le général et le particulier. Et en fait, nos parents, c'est des prochains en particulier. Quand la Bible dit « aime ton prochain comme toi-même », nos parents sont bien placés comme prochains, n'est-ce pas ? Alors, comment est-ce que nous honorons nos parents aujourd'hui ? La réponse va être différente pour chacun d'entre nous, parce que notre contexte familial est pour chacun différent. Et si Dieu a dû donner un commandement aux Israélites pour qu'ils honorent leurs parents, je me dis que ça ne devait pas être évident ou naturel pour eux, ce qu'ils avaient besoin d'entendre, ils avaient besoin d'être contraints par ce commandement-là. Si dans le Nouveau Testament, on voit qu'à plusieurs reprises, ce commandement est rappelé aux chrétiens, c'est que toutes ces années plus tard, ils avaient encore besoin de se le faire rappeler, parce que ce n'était pas évident pour eux. Et je pense que pour nous aujourd'hui, ce n'est pas plus évident, on a aussi besoin de le prendre pour nous aussi. On doit honorer nos parents. Et dans notre contexte, c'est pas forcément toujours facile, parce que dans notre société occidentale, surtout après mai 68, on n'a plus le même respect ou la même crainte vis-à-vis de nos aînés, parce qu'on met beaucoup plus en avant la valeur d'être indépendant, d'avoir notre esprit critique, d'avoir notre liberté de penser, liberté d'expression, liberté d'agir. Et du coup, c'est ça qu'on valorise plus dans notre société. Et donc, dans ce contexte-là, c'est plus difficile d'avoir le réflexe d'honorer nos parents. Et quand on est adolescent en particulier, c'est un sport national que de prendre du recul par rapport à nos parents. Ça fait partie du processus psychologique pour ceux qui sont là-dedans. En tout cas, et ça devient vite un sport national de critiquer nos parents, et de mal leur parler ou de mal parler d'eux entre jeunes. Et en fait, les parents, c'est les personnes qui sont, les enfants, c'est les personnes qui sont les mieux placées pour voir les défauts de leurs parents. Forcément, ça devient évident. Tout ce que mon père, il fait n'importe comment, tout ce que ma mère dit qui est pas bon, et on va vite développer ça, cultiver ça. Moi, je me suis retrouvé en plein là-dedans. Un jour, je me suis rendu compte, mais en fait, là, je suis en train de désobéir à « Honore ton père et ta mère ». Pourtant, ça me paraissait tellement normal, tout le monde le fait. Et même quand on n'est plus adolescent, on garde encore une partie de cette manière de penser. On prend du recul par rapport à nos parents et on peut vite mal les considérer. À quel point sommes-nous encore influencés par ce regard sur nos parents et dans quelle mesure ça nous empêche encore aujourd'hui de les honorer? Est-ce que nos parents sont vraiment importants à nos yeux? Ou alors c'est « Papa, t'es lourd ». Est-ce que nous leur exprimons l'importance qu'ils ont à nos yeux? Alors c'est sûr que la fête des mères, la fête des pères, c'est des occasions rêvées parce qu'on y pense à fond, mais c'est pour des motifs commerciaux que c'est mis en place, mais tant pis, c'est bien quand même, mais on ne devrait pas avoir besoin de fête des mères et de fête des pères pour montrer à nos parents qu'ils ont de l'importance à nos yeux. Ça devrait être tous les jours. Alors, il y en a peut-être plusieurs parmi nous ce matin qui ont le cœur lourd depuis le début de cette journée, parce qu'on n'arrête pas de parler de parents, et que pour eux, ça ne fait qu'évoquer des souvenirs difficiles. Soit parce que vous n'avez plus vos parents et que vous êtes dans la peine, soit parce que les relations avec vos parents étaient compliquées, difficiles, et que vous préfériez presque ne plus avoir de parents. Et pourtant, dans le texte des commandements, il n'y a pas de dérogation particulière de dire « Bon, honorez votre père et votre mère, bon, uniquement s'ils sont sympas, et uniquement s'ils sont encore en vie, et, s'ils ne sont pas trop moches. Ou... » Enfin non, il n'y a pas de restriction. C'est « Honore ton père et ta mère, point. » Alors si vos parents ne sont plus de ce monde, certes, vous ne pouvez plus faire grand-chose pour eux aujourd'hui. Mais peut-être que vous pouvez encore honorer leur mémoire. Vous pouvez encore mettre en pratique ce qu'ils vous ont appris, en particulier ce qui était bon, et le reconnaître. Peut-être que dans la manière dont vous allez parler d'eux, vous allez aussi continuer à apporter du respect vis-à-vis d'eux. C'est peut-être pas toujours facile, parce que parfois ils peuvent nous sembler aussi indignes. Les parents, c'est des hommes, et les hommes, ils sont marqués par le péché. Les hommes sont imparfaits et peuvent parfois être même très mauvais. Et ça peut impacter notre relation, ça peut affecter notre manière de les voir, et c'est une souffrance, c'est difficile. Et moi, je fais le parallèle aussi de la difficulté qu'on peut avoir à respecter, à être soumis à nos autorités, aux hommes politiques en particulier. Et je pense à cette parole que l'apôtre Paul avait donnée aux chrétiens de Rome, qui pourtant étaient persécutés à l'époque, hein. Il leur disait que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu, et ceux qui sont engagés dans une telle lutte, donc contre les autorités, recevront un châtiment qu'ils se seront attirés. Ça fait toujours bien de se le rappeler un dimanche d'élection, n'est-ce pas? Alors, comment on peut gérer quand la relation avec nos parents est particulièrement compliquée et douloureuse? On a peut-être un dossier épais comme ça de récrimination de tout le mal que nos parents nous ont fait, ou qu'ils font aussi à d'autres, peut-être. Dans ces cas-là, ne serait-il pas mieux de couper les ponts avec eux pour arrêter de souffrir? Est-ce qu'il ne serait pas légitime de se défendre et de contre-attaquer pour éviter d'être plus affecté? C'est compliqué, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas spécialiste, donc je ne peux pas me permettre de donner des conseils, des ordres, comment gérer ces situations, mais elles existent. Comment on fait pour gérer ces situations? Il y a un aspect qui n'est pas facile à comprendre, mais nos parents, aussi pécheurs soient-ils, c'est ce que je disais tout à l'heure, sont quand même des représentants de Dieu à l'égard de leurs enfants. Quand on pense à quelqu'un d'archi-mauvais, on n'arrive pas à comprendre ça. Mais ils sont aussi des représentants de Dieu, des mauvaises images, certes, mais des représentants. de Dieu. Rien qu'à ce titre, on leur doit quand même du respect, de l'honneur. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire tout ce qu'ils disent. Ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord avec ce qu'ils font. Mais ça n'empêche pas qu'on leur doit du respect. Alors j'aimerais qu'on puisse juste prendre un exemple tiré de la Bible, celui de David, qui avait des problèmes dans sa relation, non pas avec son père, mais avec son beau-père, Saül, qui n'était autre que son roi également. Saül avait essayé plusieurs fois de tuer David. Il l'a pourchassé, poursuivi. Il a pourri la vie complètement. Il l'a traité comme une bête. David, qui en plus avait été déjà choisi par Dieu pour être le prochain roi, aurait très bien pu dire « Maintenant je suis le roi légitime, je fais un coup d'état et je tue Saül. » Et plusieurs fois, il aurait pu le faire. Plusieurs fois, il avait l'arme sur Saül, il a dit « Tu vois, je pourrais te tuer, mais je ne le fais pas parce que je te respecte, tu es mon roi, je ne veux pas porter atteinte à celui que Dieu avait choisi pour être roi. » Et je trouve que ce comportement est vraiment exemplaire et nous invite à réfléchir. Même si un parent, ou ça vaut aussi, même si un homme politique est complètement indigne, on lui doit quand même du respect. J'aimerais maintenant revenir à un autre aspect de la manière dont nous honorons nos parents, et ça va être un des derniers points, c'est celui de porter assistance à nos parents. Dans l'Évangile, Jésus cite le commandement « Honore ton père et ta mère » à l'encontre des pharisiens pour dénoncer une pratique qu'ils avaient. En fait, ils étaient hypocrites parce qu'ils disaient « Bon, ce que vous alliez donner pour vos parents, pour prendre soin d'eux, si jamais vous voulez le donner en offrande à Dieu au temple, ben vous n'avez pas besoin de le donner à vos parents. » En gros, ils mettaient en avant l'acte religieux aux dépens de l'assistance, s'occuper des besoins de leurs parents. Et Jésus dit, non, ça c'est une fausse bonne idée, c'est une fausse religiosité. Vous êtes hypocrites, les pharisiens, en disant ça. Vous êtes responsables de prendre soin de vos parents. Ne cherchez pas des excuses, aussi religieuses soient-elles. Un peu plus loin, dans la lettre de l'apôtre Paul à Timothée, qui était son jeune collaborateur et qui voulait encourager dans son ministère de, on peut dire, pasteur avec nos mots d'aujourd'hui. Et concernant le sujet particulier d'organiser la solidarité parmi la communauté chrétienne, ils avaient notamment des problèmes par rapport aux veuves, qui n'avaient pas de soutien, et donc il fallait organiser ce soutien des veuves. Paul rappelait que les veuves qui ont une famille, qui ont des enfants, ce sont eux qui doivent s'occuper principalement de leurs veuves. Autrement dit, il insiste sur la responsabilité qu'ont les familles, les enfants en particulier, de prendre soin des personnes faibles dans leur famille, de leurs parents en particulier. Donc voilà, je pense que on peut aussi être sensibilisé sur notre responsabilité de prendre soin de nos parents âgés. C'est que dans notre société française, il y a l'État qui joue un rôle important pour organiser la solidarité, et ce serait dangereux de croire qu'on est dégagé de cette responsabilité-là. Non, on reste quand même responsable de s'occuper de nos parents. Alors, une dernière application qui découle de... Donc, quand le commandement « Honore ton père et ta mère » est cité dans l'épître aux Éphésiens, donc encore l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens de la ville d'Éphèse, juste après avoir cité ça, il dit ceci. « Vous, parents, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. » Ah, c'est dans l'autre sens cette fois-ci. Pour dire qu'il y a aussi un souci de veiller à ce que j'appelle la solidarité intergénérationnelle, ce lien entre les parents et les enfants, ça doit aussi être une préoccupation des parents vis-à-vis de leurs enfants. Parce que si les promesses de Dieu se transmettent de génération en génération, si un parent est indigne, si un parent montre un mauvais exemple, il risque d'entraîner ses enfants à la perdition. Certes, chacun est responsable de ses décisions, chaque enfant est responsable de ses choix, que ce soit par rapport au choix de sa vie, mais aussi par rapport à la foi, mais les parents ont une responsabilité, et si on est chrétien, on a cette responsabilité d'être un exemple, d'être un modèle et d'être impliqué dans la transmission de notre foi. Donc je pense que c'est quelque chose à prendre au sérieux, parce que c'est une manière, enfin Dieu utilise les parents pour transmettre des promesses aux générations suivantes. Wow, ça fait beaucoup de choses. Dieu nous a peut-être parlé sur un point en particulier, quelqu'un d'autre va être touché sur un autre point. Ce que je vous invite maintenant, c'est simplement qu'on puisse incliner nos têtes et qu'on puisse demander à Dieu de non seulement garder ça dans notre cœur, mais que ça devienne quelque chose de concret dans nos vies. On a chacun un défi en particulier pour appliquer ce commandement, honore ton père et ta mère, pour veiller aussi à comment on honore nos autorités, comment on veut transmettre les promesses de Dieu à nos enfants ou aux enfants des autres, mais comment on veut transmettre tout ça? Que Dieu puisse vraiment nous parler. Je vous invite à incliner vos têtes dans la prière. Mais Seigneur notre Dieu, merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu as des projets de paix et non de malheur pour nous. Merci parce que tu as voulu nous adopter pour faire partie de ton peuple. Et Seigneur, tu vois que nous sommes bien faibles, nous avions vraiment besoin de cet élément déclencheur de ta part pour nous arracher au péché, pour nous arracher à notre manière de vivre. Seigneur, je te prie pour que tu nous aides à vivre dans tes voies. Seigneur, tu vois chacun d'entre nous ce matin, tu vois ce qui nous concerne le plus, ce qui nous touche le plus. Je te prie pour que tu nous aides à honorer nos parents, que tu nous aides à honorer aussi nos autorités, que tu nous aides aussi à avoir ce souci concret de transmettre notre foi aux générations suivantes. Seigneur, je te prie pour que ça ne reste pas juste des belles idées dans nos têtes, mais que par ton Saint-Esprit, tu remues nos cœurs pour que ça puisse découler de ce que tu fais dans nos cœurs, Seigneur, que nos actions, nos paroles puissent vraiment être impactées par ta loi, par ton commandement. Que ce soit quelque chose de naturel pour nous de nous aimer les uns les autres, mais pas d'un amour à l'eau de rose, d'un amour comme tu nous l'as montré, qui va jusqu'à donner sa vie pour ses amis. Seigneur, je reconnais que je suis bien faible par rapport à cet amour, que l'amour que je peux avoir même pour mes plus proches, il est infiniment petit par rapport au tien. Mais Seigneur, je te prie pour que tu le fasses grandir et que ce soit vrai pour chacun d'entre nous. Que l'amour que tu mets en nous puisse vraiment porter du fruit durable et à ta gloire. Seigneur, je veux te prier maintenant en particulier pour les personnes qui sont dans la souffrance, pour une relation difficile avec leurs parents ou avec leurs enfants peut-être aussi dans l'autre sens. Et je te prie pour que tu leur apportes le réconfort. Je te prie pour que tu leur donnes la paix et qu'ils puissent sentir que c'est toi qui contrôles toute chose. Quand tout nous dépasse, toi, tu es en contrôle. Gloire à toi, Seigneur. Amen.